Alors, politique avec Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour, messieurs.
D'abord, Paul, tu voulais réagir à cette entrevue là qu'on vient tout juste d'avoir là, et toute cette question de l'appropriation culturelle.
Oui, ma réaction va être brève. Tout ce que Carla Beauvais a dit, copier-coller, je l'endosse. J'étais premièrement content de l'entendre parler parce que dans ce débat, dans tous les débats sur l'appropriation culturelle, Sclave, Canada, ceux qui attirent l'attention habituellement, c'est ceux qui crient le plus fort, oui. Et ceux qui prétendent parler au nom de communautés dont ils font pas partie puis qui ont pas de légitimité. Et c'est une des raisons pour lesquelles le débat dérape. Les extrêmes prennent toute la place. Et quand je l'ai entendu, j'avais presque le goût de la prendre dans mes bras. Oui. J'étais d'accord avec tout. Donc,
bravo.
Bravo pour la rigueur, le sens de la mesure.
Oui, et... oui, exactement. Carl, oui. En 10 secondes.
Écoute, comme ils disent en anglais, dans le cas qui nous occupe, « it's dreadful
». OK. Alors, il vient de faire un jeu de mots, là.
Il fait rouler l'industrie du drum.
OK. Paul Journet, commençons avec le premier sujet dont tu voulais nous parler, cette enquête du ministre de l'Éducation, M. Roberge, qui l'a déclenchée donc ce matin officiellement. Je dois dire qu'on va avoir le ministre Roberge un peu plus tard dans l'émission, là vers 2h15 à peu près. Résume-nous l'affaire.
Oui. Mon collègue Tommy Chouinard en parlait ce matin dans la presse. C'est pas la première fois que la commission scolaire English Montreal est dans l'eau chaude. On la soupçonne de contourner la loi en accordant des contrats de gré à gré qui sont assortis d'extra, puis on parle pas de petits contrats, là, des contrats de plus de 100 000 $. Aussi des allégations au sujet de sa présidente, Angela Marcini, qui était une ex-candidate de l'équipe Coder au municipal. Il y a eu une plainte déposée pour harcèlement psychologique. Donc, allégations sur la présidente, sur le fonctionnement de la commission scolaire. Et quand je te disais que c'est pas la première fois, le ministre Proulx, ancien ministre de l'Éducation sur les libéraux, avait aussi déclenché une enquête. Elle est terminée. Malheureusement, elle n'est pas publique. L'UPAC s'était déjà intéressé à la commission scolaire. Et maintenant, c'est au tour du ministre Roberge. D'ailleurs, on peut l'entendre s'expliquer.
Ces allégations sont préoccupantes et même très sérieuses. C'est pas de gaieté de cœur que mon gouvernement déclenche un processus d'enquête comme celui-ci. Mais pour nous, c'est primordial, évidemment, de s'assurer que nos institutions soient gouvernées avec éthique. Il faut que chaque dollar qu'on investit dans notre réseau serve le mieux possible les élèves, les étudiants.
Oui, d'accord. On peut pas être contre ça, là.
Non.
Mais c'est juste que je comprends pas. Si le ministre précédent de l'Éducation a commandé un rapport qui lui est justement sur des allégations ou des irrégularités, comment ça se fait que ce rapport-là, on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans?
Mais oui. Et surtout, est-ce qu'il y a eu des suites?
Ben oui. Mais s'il déclenche une enquête, on peut penser que c'est parce qu'il n'y a pas eu de suite.
Parce que ça fait deux ans de ça, ce rapport-là, je pense.
Puis exact, à moins que ce soit de nouveaux faits, mais même si des nouveaux faits sur les faits précédents.
On ne sait pas ce qui s'est passé.
On ne sait pas.
Puis tu nous disais que l'UPAC a enquêté?
Oui.
Puis il est arrivé quoi avec ça? Je veux dire, pourquoi tu sens le besoin, comme ministre de l'Éducation, d'ordonner une nouvelle enquête si l'UPAC est déjà là?
Bien, encore, je ne sais pas s'il s'agit des mêmes faits. Puis là, quand on parle de l'UPAC, c'est nature criminelle. Mais il peut y avoir des choses qui intéressent le ministre sans forcément relever
de
l'UPAC. Oui. Mais ta question par rapport au rapport du ministre Proulx est bonne. Et t'as entendu que M. Roberge semblait très préoccupé, mais ça l'arrange d'être préoccupé.
Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que la Coalition Avenir Québec veut réformer les commissions scolaires. Souviens-toi, elle peut pas les abolir, mais elle veut les saigner en quelque sorte. Elle veut les remplacer, elle veut réduire leur rôle pour que ce soit les commissions scolaires qui soient sous la responsabilité des directions d'école et non pas l'inverse. Puis on le sait, ça passe pas mal moins bien dans la communauté anglophone que francophone. D'ailleurs,
tu penses qu'il y a un agenda politique derrière ça?
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est des motivations politiques, partisanes, idéologiques qui motivent son enquête. Ça, je ne doute pas que l'enquête, elle est fondée par les allégations réelles et sérieuses. Je dis seulement que
ça les arrange.
Ça peut les arranger dans ce qu'ils préparent.
Ça amène de l'eau au moulin. De ceux qui s'opposent aux commissions scolaires de manière idéologique, là, ça pouvait pas mieux arriver au moment où la CAQ va entreprendre ces réformes-là.
Bon, on va aller justement à toi, mon cher Carl, parce que là, tu vas nous parler un petit peu de cette élection partielle en Colombie-Britannique, là, où Jack Meade Singh, le chef du NPD, va tenter de se faire élire. Il s'est passé quelque chose de quand même assez grave dans les dernières heures, là.
Écoute, les couteaux volent bas, volent très bas. C'est l'appel au vote ethnique de la part de la candidate libérale. C'est toute une histoire. Karen Wong, qui est la candidate libérale, qui est d'origine chinoise, a utilisé WeChat, qui est un peu le Facebook chinois, si tu veux. Et là, elle a demandé aux utilisateurs de voter pour elle, parce qu'évidemment, elle est la seule candidate chinoise, et que si les Chinois votaient pour elle, elle pourrait battre le chef du NPD, Jack Meade Singh, qu'elle a identifié comme d'origine indienne.
Oui, oui, oui.
Écoute, donc c'est vraiment la carte ethnique, la carte raciale qui est jouée. Il faut comprendre que dans Burnaby Sud, il y a 68% des 111 000 habitants qui sont identifiés comme étant une minorité visible. Là-dessus, 43 000 Chinois.
Oui, oui. C'est sûr que si les Chinois ou les Canadiens d'origine chinoise décident de voter pour Mme Wang, la candidate libérale, elle passe comme une balle.
Ben, c'est certain.
C'est ça qu'elle veut.
Ben oui, mais sauf que habituellement, on jouera pas aux vierges offensées, là. Je veux dire, les communautés, les partis politiques font appel à eux, puis souvent ils ont des candidats puis des organisateurs, puis bon, on joue cette carte-là, mais oui. Habituellement, on fait pas ça de manière si ouverte et si claire sur un réseau social de ce que comme Karen Wong vient de le faire. Et là, ben évidemment, ça amène des hauts cris. Le Parti conservateur, par la voix de Michelle Rampeau, la députée, qui a demandé à Justin Trudeau de la congédier, dit que c'est du racisme pur et simple.
Ben oui. J'imagine, un pauvre Québécois là qui dirait une affaire de même là à propos d'une autre communauté là. Hey, boy, je te le dis.
Votez pour moi parce que je suis Québécois, je suis le seul candidat québécois dans le comté.
Ouais.
Voyons donc. Hein? Ça serait épouvantable les réactions.
Je suis sûr que Justin aurait déjà fait un point de presse là-dessus, moi là.
Mais certainement. Hein? Et bon, les conservateurs, comme je te disais, ils demandent la tête de la candidate Karen Wong, mais leur candidat, lui, Jay Chin, qui est d'origine coréenne, lui aussi a attaqué Jack Meade Singh. Mais il a attaqué sur la base que Singh est un avocat criminaliste et qu'il défend des criminels et donc faible sur le crime.
Vole bas dans Burnaby. Écoute, on en a pour quelques semaines encore parce qu'il vote, c'est quoi? C'est le 25?
25 février. Là, je finis là-dessus. Bonne nouvelle pour Jack Meade Singh, il y en a deux. Sondage mainstream qui est sorti. Singh serait en avance à 39 points contre 26 pour la libérale. Conservateur à 22. 9 pour le Parti populaire de Maxime Bernier, qui est quand même haut.
Oui, ça, c'est du vote qu'ils prennent aux conservateurs. Ben oui.
Absolument. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le retour de Sven Robinson, qui fait un retour en politique dans le comté voisin, qui a donné son appui à Jack Meade Singh et qui fait campagne avec lui. Une figure encore très, très populaire à Burnaby, d'où il vient.
Oui, c'est un député que j'ai connu du temps que j'étais page à la Chambre des communes. Ah oui,
c'est un député qui a fait l'histoire.
Non, mais on s'est quand même assez bien connu parce qu'il était dans son premier mandat, puis c'était un des rares députés qui parlait aux pages. Il était vraiment sympathique, puis il parlait bien français, Sven Robinson.
Mais oui.
Au NPD, je pense que c'était le seul ou un des rares qui parlait très bien français. Donc, on était capable d'avoir une bonne discussion avec Robinson. Et donc, c'est un homme politique, effectivement, moi, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Alors, ce serait intéressant. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, comme tu le dis, Carl, pour le NPD.
Il n'y en a pas eu beaucoup dernièrement. Là.
On s'entend. Puis pour Jack Meade Singh aussi, c'est une bonne nouvelle. OK, on va s'arrêter parce qu'au retour, notre Paul adoré a plein d'autres choses dont il veut nous parler. Et Carl aussi, là, il y a des choses dont il... Notamment, tiens, petite controverse peut-être concernant le nouveau ministre de la Justice, là, M. Lametti. OK, de retour avec Paul et Carl pour parler politique. Carl, parle-nous de ces propos, controversés de M. Lametti, le nouveau ministre de la Justice que Justin Trudeau a nommé cette semaine.
Le passé vient souvent nous rattraper lorsqu'il y a des promotions comme ça. Il y a des gens qui fouillent notre passé. Et c'est une nouvelle qui a été sortie par Black Lock, qui est une publication web spécialisée en politique fédérale. Alors, quand David Lametti était à l'Université McGill, il a écrit dans une publication, il a défendu le piratage musical comme étant éthique, peu importe ce que la loi disait.
Comme étant éthique?
Et voilà, écoute, je vais te le citer. Tout le monde le fait, ce n'est pas nécessairement du vol, du piratage ou même de l'injustice. Cela peut être bénéfique pour notre développement affectif et social et donc justifié, éthique et vertueux.
Oh, boboy! Je vais te dire, l'UDA vont être contents et tous ceux et celles qui défendent les droits d'auteur.
Et là, il y a un examen de la loi sur les droits d'auteur qui a cours présentement aux communes. Il y a des comités qui se penchent là-dessus. Évidemment, on connaît tout le dossier, là. Selon Musique Canada, par exemple, les redevances perdues en 20 ans à cause de l'industrie numérique seraient de plus de 12 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, c'est des gros sous. Et là, on a un nouveau ministre de la Justice qui dit, ben, la loi sur le droit d'auteur, finalement, pas très important parce que tout le monde le fait.
Eh, Paul, tu vas avoir quelque chose à dire là-dessus.
Mais en tant qu'ancien critique musical...
Oh, attention, mesdames et messieurs.
Oui, argument d'autorité. Ce qui va aider M. Lametti, c'est qu'on est en 2019 et non pas en 2009. Parce que le débat sur le piratage... Non, je ne sais pas c'est en quelle année, mais le débat sur le piratage musical, c'est un débat qui a été déclenché, entre autres, par Napster, qui a fait rage en 2000-2010 à peu près. Mais maintenant, le problème, ce n'est plus le piratage, ce n'est plus l'écoute ou le téléchargement illégal de musique. C'est l'écoute en toute légalité sur les sites de streaming comme Spotify, Deezer, etc., où les artistes n'ont pas de redevance. Donc, ce n'est pas un problème de droit d'auteur, là, c'est un problème de redevance. Je pense qu'il aurait été pas mal plus embarrassé.
Mais c'est pas lié, excuse-moi, là, pourquoi tu fais cette distinction?
Ben, c'est parce que
tu verses une redevance
si, regarde,
parce que tu
Je suis sur Spotify ou sur Apple Music, j'écoute de la musique. Oui. Je le fais en toute légalité. J'ai pas piraté la musique en allant sur un site où j'ai pas de droit d'auteur, puis j'ai téléchargé sur mon ordinateur la musique. Là, je l'écoute en payant un abonnement. Donc ça, ça se fait en toute
l'abonnement
légalité.
Que tu payes,
mais c'est un système légal, mais injuste, qui ne verse que des miettes en redevance aux artistes.
Okay.
Donc ce qu'on veut, c'est s'assurer que les artistes aient plus d'argent quand on écoute légalement leur musique, pas qu'on arrête de l'écouter illégalement parce qu'il n'y a plus personne vraiment. Il y a pas grand monde qui fait ça maintenant.
Mais on l'écoute légalement justement parce que ça nous coûte presque rien de l'écouter.
Ben oui, c'est ça. Puis il faudrait qu'il y ait un petit peu d'argent qui aille aux artistes et non pas dans les poches des créateurs, entre guillemets, de tuyaux et d'autres quincailleries.
Donc, tu dis le droit d'auteur, dans le fond, il est juste pas suffisamment reconnu parce que la redevance est pas suffisamment élevée.
Le droit d'auteur, c'est-à-dire le droit est reconnu, mais il vient pas avec une rémunération conséquente. Mais comme Carl a très justement souligné, c'est vrai qu'on est en train de revoir aussi toutes les lois, dont celle sur le droit d'auteur, et ça peut pas être positif non plus pour M. Lametti.
Très bien.
Et j'ajouterais au niveau du piratage numérique, il y a la musique dont on parle, on en fait presque plus, mais quand on regarde l'industrie du film, de la télévision, là, c'est autre chose. Et évidemment, est-ce que les propos de M. Lametti, en 2011, qui a écrit ça va te faire tomber? Non. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose...
Ça peut le mettre sur la défense.
Ça va pas l'aider, on s'entend là-dessus.
Bien sûr. Tu voulais nous parler, Paul, un petit peu de la situation des aînés?
Oui, brièvement. Écoute, c'est pas, y a pas tant que ça de nouvelles. C'est les mauvaises nouvelles qui se poursuivent et qui font presque partie, malheureusement, de la routine. C'est-à-dire un autre cas de maltraitance, cette fois-ci dans une résidence privée, résidence L'Éden à Laval, rapporté par la journaliste Dominique Scali. Un cas de plus, il y a le rapport de la protectrice du citoyen l'automne dernier qui s'ajoutait à tous les autres rapports, où en gros, c'est les mêmes histoires désolantes, où il y a des aînés à qui on pas leur bain, qui n'ont pas des repas adéquats, la médicamentation n'est pas prise aux bonnes heures, des chutes trop fréquentes, manque de supervision, etc., etc. La ministre Marguerite Blais a réagi, elle a dit, écoutez les gens, si vous voyez des problèmes, vous pouvez appeler les policiers, vous pouvez même m'appeler moi. Mais
ah oui?
Bon,
elle dit ça?
Oui,
elle dit
mais...
ça, ouais, ouais. Ah ben là...
Mais c'est pas ça qui va régler le problème.
Elle peut faire quoi, sérieusement? Comment on le règle, le problème?
On veut l'entendre d'abord? On l'entend.
On a décidé d'évaluer tous les CHSLD, et en particulier les 46 CHSLD privés. On veut que partout dans nos CHSLD, les soins et les services soient de même qualité. Et nous allons le faire. Moi, je suis pas revenue en politique pour qu'il y ait des personnes qui soient atteintes de négligence et de maltraitance. Et j'ai mentionné hier à un journaliste que s'il fallait ouvrir la loi, on va le refaire. Si ça prend des sanctions pénales, on ne va pas tolérer qu'il y ait dans des établissements de la négligence. Ça prend de l'imputabilité.
Elle met ses culottes. Si elle était capable de mettre en œuvre ce qu'elle vient de dire, on ferait un pas en avant. Là.
Oui, sauf que ça ne suffira pas. Peut-être qu'on est rendu à l'étape où on doit changer la loi pour ajouter des pénalités.
Mais il faut revenir, c'est ça.
Il faut remonter puis essayer de comprendre c'est quoi la cause du problème. La cause, c'est qu'il y a un manque de ressources. Il faut en ajouter.
Carl, tu posais la question, comment on le règle, le problème?
Parce que, écoute, je doute pas de la bonne foi de Marguerite Blais. Au contraire, je pense qu'elle est très, très sincère. Mais ouvrir la voie, puis mettre des, rentrer dans le pénal. Mais c'est déjà là. On a déjà pas le droit de maltraiter les gens. Je veux dire. Donc, est-ce que ça va régler le problème? Non. Faut mettre beaucoup de ressources. Et bon, mais veut pas. Faudra avoir des outils spécialisés. On parle de, on a appelé la ministre. Mais écoute, si on appelle la ministre, là, c'est pas elle qui va débarquer demain matin pour régler
ça. Elle l'a fait, Carl. Elle a débarqué à l'impromptu. Elle est allée faire des visites de CHSLD.
Oui, puis c'est une bonne chose. Mais est-ce que le problème est réglé? L'évidence, non.
Il faut plus de ressources, puis pour plus de ressources, il faut des meilleures conditions de travail. Ça revient à ça, on s'en sort pas.
Oui, c'est vrai.
Paul Journet, éditorialiste à la presse, merci.
Merci.
Carl Bélanger, consultant, stratège, merci à toi.
À demain.
Après la pause, l'histoire de ce papa, on parle santé, là. Il y a un fils schizophrène qui a vraiment besoin d'aide.